Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous autour de Saint-Paul. Nous sommes déjà familiers avec de nombreuses lettres de l'apôtre, comme l'épître aux Romains ou les épîtres aux Corinthiens, et je vous propose cette semaine de découvrir une lettre plus tardive, qui n'est peut-être pas de la main de Paul, mais qui exprime parfaitement sa pensée, l'épître aux Éphésiens. Alors c'est une épître un peu difficile, mais c'est une lettre magnifique, très théologique, et pour nous accompagner dans sa lecture, j'ai le plaisir de recevoir celle qui en est l'une des grandes spécialistes, Chantal Régnier, bonjour. Vous êtes professeur d'exégèse biblique au Centre Sèvres à Paris et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'épître aux Éphésiens. Alors, pour commencer, ce que j'aimerais savoir, c'est, je viens de le dire, hein, c'est une lettre plus tardive. On dit qu'elle n'est pas de la main de Paul. Est-ce que c'est un problème?
Alors, c'est vrai
que c'est
une...
grave que ce soit pas
non,
de la main
grave,
de Paul.
Non, je ne pense pas. C'est une lettre, effectivement, dont l'authenticité paulinienne a été contestée, mais son appartenance aux écrits pauliniens n'a jamais été contestée, par contre. Donc ça, c'est déjà le plus important. Le plus important, c'est cette inspiration paulinienne du texte, et c'est surtout qu'elle a été produite à un moment sans doute tardif de la vie de Paul, et qui présente donc une synthèse absolument extraordinaire par rapport au dessein de Dieu, à la vie chrétienne, à la place du Christ dans la création. Et donc, à cet égard, elle est extrêmement riche, et il ne faudrait pas se priver de sa lecture sous prétexte qu'on ne sait pas vraiment si elle est de Paul ou pas de Paul. La question de l'auteur n'est pas un empêchement à...
Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elle serait pas de Paul? Qu'est-ce qui pose cette question?
C'est parce que essentiellement c'est une lettre qui a été contestée du fait même qu'elle est écrite aux Éphésiens et qu'il n'y a même pas la mention d'Éphèse dans le manuscrit, et que Paul, ayant vécu de nombreuses années à Éphèse, dans le texte même de la lettre, on ne sent pas cette présence des destinataires et cette connaissance des destinataires. C'est une lettre qui paraît un peu plus distante du destinataire. Et donc, c'est ça qui fait soupçonner. Mais évidemment, ce n'est pas du tout de la même veine que l'épître aux Philippiens, où Paul est extrêmement présent.
D'accord. Ça ressemble pas à du Paul. Enfin, ça ressemble... Ouais, c'est difficile de...
C'est voilà. dans le rapport au destinataire, surtout. Mais sinon, tous les arguments que l'on utilise pour prouver la non-authenticité paulinienne se retournent pour dire les mêmes arguments pour dire qu'en fait elle est de Paul. Donc si elle n'est pas de Paul, c'est un génie qui est égal à Paul et qui est une personnalité aussi extraordinaire que lui. Donc pourquoi ne pas dire que c'est du Paul finalement?
Voilà. Alors quels sont les éléments nouveaux par rapport à Paul, ou vous dites c'est la fin de sa vie, il fait une synthèse, de quoi?
Alors c'est effectivement, nous sommes au terme d'une évolution, donc on peut pas empêcher un auteur d'avoir évolué aussi.
Absolument.
Mais toujours dans une même ligne, dans la ligne paulinienne. Les thèmes, si vous voulez, la grande différence, c'est que les thèmes majeurs, par exemple de la justification ou du rapport à la loi, n'apparaissent plus comme ils étaient présents dans l'épître aux Galates ou l'épître aux Romains. Il y a aussi tout le côté de la connaissance. Le vocabulaire de la connaissance est absolument omniprésent. Il s'agit de connaître l'intelligence, la révélation, la sagesse. Donc là aussi, il y a un déplacement où on constate que donc le chrétien, c'est celui donc qui connaît le dessein de Dieu, enfin qui est appelé à connaître davantage. Bon. Ça, c'est un deuxième aspect de la nouveauté. Un troisième aspect, c'est sans doute la prise de conscience de ce que représente l'Église. C'est-à-dire que les croyants prennent conscience que finalement, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont présents dans des lieux extrêmement différents, et pourtant, ils forment un seul corps. Et c'est dans cette lettre donc que la pensée sur l'Église va prendre une forme absolument extraordinaire. Et donc, à cet égard, l'Épître aux Éphésiens est absolument indispensable si on veut dire quelque chose sur l'Église. Et puis, il y a également... Alors, ça, c'est rendu possible aussi par le fait que, au fond, le retour du Seigneur connaît un délai. C'est-à-dire, on n'est plus comme dans les premières épîtres où Paul pensait être vivant au moment du retour du Seigneur. On constate donc par expérience que le Seigneur ne vient pas. Alors, on l'attend toujours, bien sûr, mais on comprend qu'on ne peut l'attendre qu'au terme de l'histoire. Et par conséquent, ce délai de la parousie permet une extension de l'annonce de l'Évangile et de la prise de conscience de l'Église.
Merci beaucoup, Chantal Régnier.